France Inter, le 7-9. Intervenez.
Notre invité avec Léa Salamé est Agnès Buzyn, ministre des Solidarités de la Santé. Véronique Julia, service santé de France Inter, est également en studio. La parole tout de suite à Xavier au standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Xavier, je suis ignorant dans le Gard. Je vous appelle, madame la ministre, vous n'avez de cesse depuis que vous êtes en poste de stigmatiser la consommation de vin. Dans une bouteille de vin, il n'y a que 12% d'alcool. Le reste, c'est de la culture, de la convivialité, de la passion des hommes et des femmes qui travaillent et des paysages. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, madame la ministre, je suis viticulteur. Est-ce que demain, je serai considéré comme un dealer ?
Merci Xavier pour cette question. Beaucoup de questions sur ce même thème sur Twitter. Agnès Buzyn.
Alors, c'est intéressant parce que je n'ai pris la parole qu'une seule fois sur l'alcool depuis 8 mois. Une fois. Dans une émission qui était dédiée à l'alcoolisme sur France 2 mercredi dernier. Et j'avais en face de moi des personnes qui avaient sombré dans l'alcoolisme et qui essayaient de s'en sortir. Et donc j'ai rappelé des chiffres sanitaires. Mais c'est intéressant parce que je n'en ai parlé qu'une seule fois. Le mot alcool n'est sorti qu'une seule fois de ma bouche en 8 mois, c'était mercredi dernier.
Mais donc, on est en France et la question du vin est très spécifique.
Oui,
et il y a une bataille pour
mais
dire...
Mais je trouve ça intéressant...
Ça n'est pas la même chose.
Mais je trouve ça intéressant que le buzz fait autour de ma prise de parole de mercredi dernier fait penser à des gens que j'ai attaqué le vin. J'ai simplement parlé du problème de l'alcoolisme en France, du fait qu'il fallait mieux informer les gens sur les dégâts de l'alcool et que j'avais un devoir évidemment de prévention vis-à-vis de l'alcoolisme et notamment sur deux populations vulnérables qui sont les jeunes avec le binge drinking et les femmes enceintes qui ne savent pas aujourd'hui en France qu'il ne faut absolument pas boire pendant la grossesse. C'est une information que les femmes enceintes ne connaissent pas. Donc j'ai un devoir d'information, c'est mon rôle en tant que ministre de la Santé, je ne vois pas en quoi en disant cela, j'attaque la viticulture parce que par ailleurs, j'aime beaucoup boire un verre de vin en situation conviviale comme tout le monde.
Mais donc vous maintenez qu'il n'y a pas, selon vous, de différence de nature entre les alcools, quels qu'ils soient, et le vin issu d'une tradition et d'un savoir-faire français dans lequel la convivialité entre pour une part peut-être plus importante que l'alcool, dit ce vigneron.
Alors là encore, ma prise de parole se mettait du côté du foie et du corps humain. Pour le foie d'un humain, l'alcool contenu dans tous les spiritueux, que ce soit la bière, le vin ou le whisky, c'est la même molécule d'alcool.
Le vin est un alcool comme les autres.
Mais pour le foie. Après, on peut y trouver évidemment des vertus culturelles, un patrimoine, du plaisir et beaucoup de talent. Je parlais de la molécule d'alcool.
On retourne au standard. Ludovic, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue. Merci à toute l'équipe d'Inter et bonjour Madame la Ministre. Je vais poser deux questions, mais avant je vais donner quelques chiffres. Il y a 10 ans, j'ai repris les études. Avant, j'étais jardinier, j'ai gagné 1 300 € par mois. Aujourd'hui, je suis paramédical à l'hôpital dans un service de pédopsychiatrie et je gagne moins de 1 600 € par mois. Je vis moins bien qu'il y a 15 ans. Encore quelques chiffres. Je travaille dans un intersecteur de pédopsychiatrie de 250 000 habitants. On a actuellement plus de 1 000 demandes non traitées. Alors, on n'a plus de médecins dans le service, donc mes questions sont très simples. Je demande à la ministre, est-ce que je, en tant que paramédical, je peux travailler demain sans médecin, accueillir des enfants demain sans médecin?
Sans psychiatre.
Comment fait-on de la psychiatrie sans psychiatre?
Ok, bien reçu, bien compris, Ludovic. Là encore, énormément de questions, Agnès Buzyn, sur l'état de la psychiatrie en France.
Ludovic a raison, la situation est absolument dramatique. On a laissé la psychiatrie française un peu à part, en fait, des réformes de l'hôpital de la santé. La pédopsychiatrie a été totalement abandonnée. Il y a plusieurs régions en France, 8 régions dans lesquelles il n'y a même plus de professeurs de pédopsychiatrie pour former des jeunes. J'en ai fait ma priorité en arrivant. J'ai demandé à tous les doyens de nommer des professeurs en pédopsychiatrie dans les facs de médecine pour pouvoir former des internes, pour avoir des pédopsychiatres en ville ou à l'hôpital. La situation est catastrophique, mais il faut quand même plusieurs années pour former des médecins. J'ai fait des annonces au dernier congrès de la psychiatrie il y a moins d'un mois en en expliquant que la psychiatrie devait rentrer dans le champ de la médecine, devait être financée correctement et devait être notamment aidée pour faire émerger de la pédopsychiatrie vu les besoins aujourd'hui des enfants français.
On retourne au standard. Véronique, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, je vais vous ramener sur le sujet de l'épidémie. D'abord, je voulais féliciter toute l'équipe France Inter et dire saluer Madame la Ministre de la Santé.
Merci.
Je souhaitais revenir sur le sujet de l'épidémie, donc de la rougeole, et savoir tout simplement, une question très basique, si c'est les personnes, moi-même en l'occurrence, mes enfants et les enfants de plein d'auditeurs, ont eu la rougeole étant petits. Sont-ils prémunis, sont-ils immunisés vis-à-vis de cette épidémie qui apparaît ou faut-il réactualiser sa vaccination, voire faire le bilan avec son médecin ?
Merci Véronique pour cette question. Le docteur Buzyn vous répond.
Alors bon, donc je vais changer de casquette. A priori, une infection par la rougeole dans l'enfance vous immunise, mais on a quand même quelques cas de personnes qui ont été immunisées dans l'enfance, qui ont pu contracter la rougeole dans un cadre épidémique, notamment lorsqu'elles ont vieilli, que cette immunité se perd, ou lorsqu'elles ont eu des maladies et qu'elles sont plus vulnérables aux infections. Et dans ce cas-là, il vaut mieux revacciner, notamment l'entourage.
Voilà Véronique pour l'ordonnance. Léa Salamé.
Non, mais c'est vrai qu'on s'est posé cette question, mais Nicolas, oui. Mais vous oui, et oui. Moi, avant que vous arriviez en studio, on s'est demandé si on était vacciné ou pas contre la rougeole. On ne le sait plus. Question d'actualité, Madame la Ministre. 30 nouvelles plaintes ont été déposées contre Lactalis. Après le scandale de la salmonelle, une ex-salariée s'exprime dans Le Parisien ce matin. Ce qu'elle raconte est édifiant. Elle parle de problèmes d'hygiène récurrents. Parfois, elle ne mettait ni masque ni gants. Parfois, et souvent même, dit-elle, elle utilisait les mêmes balayettes pour nettoyer le sol et nettoyer les poudres de lait des tuyaux. C'est ce qu'elle raconte. Si c'est vrai, est-ce que vous pouvez laisser les choses sans rien faire? Est-ce que le gouvernement doit agir davantage contre Lactalis?
Agnès Buzyn.
Ça sort un peu du champ de compétence de mon ministère.
Parce c'est de la que clairement, santé publique. Hein.
C'est de la santé publique, mais on est dans la répression des fraudes. On est vraiment dans la mauvaise pratique, dans la répression du fraude, et se pose la question des contrôles dans l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs directions au sein du ministère de l'Agriculture et au sein du ministère de l'Industrie qui sont en charge de ces contrôles. Il y a probablement sur un industriel comme Lactalis qui avait fait l'objet déjà d'une alerte en 2005, peut-être la nécessité d'être à l'avenir plus exigeant ou plus regardant. On voit bien que les pratiques déviantes ont pu se mettre en place. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on revoie à l'aune et ou à l'issue de cette histoire, qu'on fasse un retour d'expérience et qu'on voit comment on rend des contrôles peut-être plus ciblés par rapport à certains industriels, et notamment lorsque ce sont des sujets très sensibles comme le lait, l'aliment des enfants, parce que évidemment cette épidémie est absolument intolérable et choquante.
Léa.
Une mission parlementaire préconise de remplacer le délit de consommation de cannabis par une amende de 150 à 200 euros. Est-ce que vous y êtes favorable?
Alors, à titre personnel, je pense que il vaut mieux une amende qui soit réellement donnée aux consommateurs qu'aujourd'hui des peines qui ne sont jamais appliquées. Donc si on veut être efficace, si on veut parler en termes d'efficience, on sera plus signifiant en donnant des amendes, alors qu'aujourd'hui, aucun consommateur n'est réellement jugé pour une consommation de cannabis. Et donc, ça laisse penser que cette consommation est admise. Or, elle reste contraire à la loi. Et je pense que, en tant que ministre de la Santé, pour des questions de santé publique, il faut rappeler que cette consommation est interdite, qu'elle est néfaste et l'amende sera probablement plus efficace.
Véronique Julia.
Oui, je me pose la question de l'avenir du numerus clausus, le nombre d'étudiants acceptés en médecine. Le député de l'Isère, Olivier Véran, proposait il y a quelques semaines éventuellement de le supprimer. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué la question et la laisse un peu en suspens. Alors, qu'en est-il effectivement? Est-ce que vous vous posez la question au sein du gouvernement? Est-ce que c'est déjà un petit peu tranché? Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a des effets pervers à l'élaboration d'un numerus clausus?
Beaucoup de questions au standard sur le sujet également. Agnès Buzyn.
Alors d'abord, le Premier ministre a laissé ouvert la question parce qu'on débute une concertation. Donc on ne va pas donner la réponse à une concertation que l'on lance avec l'ensemble des partenaires. La question du numerus clausus, elle est compliquée. Il y a de la perversion, on est en train de désespérer des classes d'âge, d'étudiants brillants, en les bloquant. Et Certains d'entre eux vont faire leurs études de médecine dans d'autres pays, ça n'est pas tolérable. Mais au-delà de cette sélection, il se pose aussi la question de la façon dont on recrute aujourd'hui les médecins. Est-ce qu'on a raison de les recruter sur un concours vraiment basé sur les maths et la physique? Est-ce qu'on pourrait imaginer plus de passerelles avec les sciences humaines et sociales? On voit bien qu'on est dans un monde où on recherche de l'empathie. Est-ce que tous nos médecins formés aujourd'hui répondent aux critères, aux attentes et aux besoins de la population française? Donc voilà, ces questions-là, on va les poser sur la table. Et surtout sur le numerus clausus, je veux dire aux Français que ça n'est pas aujourd'hui la réponse aux déserts médicaux. Parce que l'effet du numerus clausus, il est différé de 15 ans. Et si nous l'ouvrons maintenant, les médecins formés seront en fait formés dans 15 ans, c'est-à-dire en 2035.
Allez, une question rapide, Léa.
Le congé paternité doit-il être obligatoire ou pas? Vous n'êtes pas d'accord au sein du gouvernement. Christophe Castaner est plutôt pour, Marlène Schiappa, ce micro, était plutôt contre. Vous êtes où?
Agnès Buzyn.
Moi, je remarque que le congé paternité qui existe déjà aujourd'hui, n'est pas utilisé par les pères. Donc je dirais qu'au-delà de son extension ou de le rendre obligatoire, d'abord, est-ce que l'information circule? Il faudrait s'interroger sur pourquoi les hommes ne le prennent pas. Est-ce que ce sont des raisons personnelles ou est-ce que ce sont des raisons professionnelles? Donc, je crois qu'avant de prendre une décision sur le rendre obligatoire, nous avons un tout petit peu de travail à faire pour faire un état des lieux de l'envie des hommes.
Une marque de cigarette.
Programme.
Voilà.
T'as des lieux de l'envie des hommes.
Ouais, ouais. Sans transition, comme on dit, une marque de cigarette a annoncé qu'elle rognerait sur ses marges pour ne pas répercuter les hausses du prix du tabac. Est-ce normal?
Ils sont dans leur droit, puisque c'est possible.
C'est normal,
vont,
mais...
Ils vont bientôt faire de la vente à perte, c'est quand même inquiétant. Mais non, c'est désespérant, ça montre à quel point...
Vous ne pouvez rien? C'est légal, hein, mais vous ne pouvez rien sur un produit comme ça.
Je crois que Bercy, puisque ça dépend de Bercy, s'interroge sur ces questions-là. Mais nous savons qu'un certain nombre d'industriels, depuis longtemps, quand le prix du tabac augmente, prennent l'habitude de rogner leurs marges de façon à être plus compétitifs que les autres
et
marques.
Plus attirant, du coup, c'est une formidable publicité alors qu'on n'a pas le droit d'en faire.
Oui, c'est une façon de se faire remarquer.
Puisqu'on parle de tabac, je voudrais... Alors, on ne peut pas le voir parce que c'est la radio, mais cette chose qui est collée à Nicolas Demorand, où il dort avec,
une cigarette électronique.
Sa cigarette électronique. Il semblerait qu'il y a un rapport qui dit que le vapotage accroîtrait le risque de tabagisme chez les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez?
On arrête la cigarette pour éviter d'avoir le cancer avec ça, et on se demande si on va l'avoir quand même.
Ouais. Alors, il y a beaucoup d'études sur le vapotage, sur la cigarette électronique. Elles ne sont pas toutes concordantes. Une des raisons pour lesquelles le vapotage était soumis aux mêmes règles que la cigarette, et notamment pas le droit de vapoter dans les avions, etc., c'est que on pensait que ça pouvait faire rentrer les jeunes dans le tabagisme. Et que ça pouvait être un début d'addiction aux gestes et à la nicotine.
C'est ce que dit cette enquête.
D'autres enquêtes, au contraire, notamment internationales, ne disent pas ça. Moi, je continue d'être prudente sur le vapotage, parce que je pense que...
On ne sait pas si c'est nocif ou pas.
Nous ne savons pas quand même à la fin la toxicité de tous ces produits. Certains sont en vente sur Internet, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Ça sera de toute façon moins toxique que la cigarette. Ça, c'est une certitude, parce que franchement, la cigarette est tellement redoutable. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Cependant, de là à vapoter pour le plaisir et à penser que c'est anodin, ça, je ne le crois pas.